passer la parole à Laurent Clausin, qui est maître de conférence de philosophie à l'Université de Caen et l'un des deux organisateurs de ce colloque, qui est l'auteur aussi de travaux remarqués sur la théorie cérébrale de Comte et aussi sur la phrénologie de Gall et toutes les théories du cerveau du XIXe siècle. Donc, il va nous parler de la théorie cérébrale d'un naturaliste chrétien, Henri-Marie Ducrotté de Blainville.
Donc, oui, je vais donc vous parler. Je vais décrire un système, une philosophie cérébrale ou une philosophie du système nerveux un peu spécifique. Alors, l'histoire des doctrines cérébrales a surtout retenu, du temps d'Auguste Comte, l'opposition entre une doctrine de l'action propre du cerveau et des hémisphères, pris comme une entité une, et une doctrine du fonctionnement pluriel du cerveau, celui-ci étant alors compris comme un appareil, c'est-à-dire un ensemble d'organes. En gros, Flourens contre Gall. Flourens admet en effet, d'une part, que les hémisphères cérébraux sont le lieu de la pensée et de la conscience, c'est là leur action propre, mais d'autre part, ces hémisphères fonctionnent comme un tout qu'on ne peut diviser. Gall, au contraire, postule que les hémisphères sont composés d'une pluralité d'organes auxquels répondent autant de facultés physiologiques. Cet antagonisme entre Gall et Flourens se redouble éventuellement en une opposition entre deux thèses philosophiques, une doctrine spiritualiste dérivée du point de vue théorique, sinon historique, dérivée de Maine de Biran, et une doctrine pluraliste défendue par Gall et par Comte. Mais cette opposition, donc entre l'action propre du cerveau et au contraire un fonctionnement pluriel du cerveau, cette opposition, pour pertinente qu'elle soit, est une construction dont la fonction est de faire apparaître les lignes de fracture fondamentales. Elle permet généralement de ranger assez efficacement les différents acteurs de la période. Il y a pourtant des théories qui résistent à un tel critère de classification et dont les thèses semblent appartenir à l'une et à l'autre de ces catégories, ou bien encore à aucune des deux. Parmi ces théories, on pourrait citer celle de Louis-Francisque Lélu, le fossoyeur de la phrénologie, dont les thèses anatomiques semblent si mal s'accorder avec ses thèses psychologiques. Mais on peut aussi tout aussi bien citer les travaux d'Henri-Marie Ducrotté de Blainville. Tous deux sont des auteurs très difficiles à lire, justement parce que, pour des raisons qui sont particulières à chacun de leurs systèmes, ils ne rentrent pas dans les grilles de lecture classique. Nous nous proposons donc aujourd'hui de nous tourner vers Blainville. On sait l'importance qu'il a eue dans l'élaboration de la biologie conscienne, que l'on peut présenter sans grande exagération comme une systématisation des thèses blainvilliennes, au moins pour ce qui est du cours de philosophie positive. Il arrive avec Blainville ce qu'il arrive avec Saint-Simon, ou avec Gall, ou avec Lagrange, ou avec Fourier. On a parfois l'impression que l'originalité de Comte se dissout dans leurs thèses. Mais Blainville est aussi un auteur qu'il est intéressant d'étudier pour lui-même, et en particulier, c'était sur le système nerveux, ont l'intérêt de montrer combien les positions contemporaines concernant l'anatomie et la physiologie pouvaient diverger par rapport aux lignes de fracture communément admises. La question qui nous guidera dans cette étude consistera à nous demander si Blainville peut être considéré comme un partisan de Gall et, dans le cas contraire, s'il adhère à la thèse de l'action propre développée par Flourens. Cette dernière option, qui concerne la question des fonctions du cerveau, peut avoir une certaine légitimité dans la mesure où Clark et Jacina, dans leur livre sur l'origine des concepts neuroscientifiques au XIXe siècle, Clark et Jacina font de Blainville un partisan de l'action propre. Bon, je vous ai donné c'est la première citation, citation de Clark et Jacina. En 1821, Blainville exposa une thèse dont on a pu croire qu'elle faisait écho à celle de Gall, mais qui semble plus proche de l'action propre de Flourens que de la localisation cérébrale différenciée. On doit considérer, citation de Blainville, on doit donc considérer le système nerveux comme subdivisé en autant de parties qu'il y a de grandes fonctions dans l'animal. Il nous semble pour notre part que l'affirmation selon laquelle Blainville serait proche de la conception que Flourens avait du système nerveux est plutôt contestable et ne rend pas justice à la complexité des thèses de Blainville. Avant que d'étudier l'œuvre de Blainville, il convient de faire un rapide rappel bibliographique. Sans être central, les recherches de Blainville sur le cerveau sont loin d'être anecdotiques et son intérêt pour l'étude anatomique du système nerveux a été continu. D'où un corpus relativement important, mais aussi très dispersé. Je vous ai donné en toute fin de page les principaux titres de cette bibliographie. Ce corpus peut être organisé à partir de ces cours en trois grandes parties. Il y a d'abord un cours assez connu, un cours d'anatomie comparée fait au Muséum en 1814 et intitulé « Sur la sensibilité, les organes des sens et le système nerveux ». De ce cours est tirée la substance de l'article de 1821, « Considération générale sur le système nerveux ». Cet article, cependant, se consacre quasi exclusivement à l'anatomie comparée du système nerveux et n'aborde pas la théorie de Gall en tant que telle, alors que le cours l'avait fait. Et le cours de 1814 est d'ailleurs assez connu pour cela, pour avoir introduit un enseignement de Gall au muséum. Deuxième partie, le cours de physiologie générale et comparée fait à la Sorbonne de 1829 à 1832, et d'où est tiré le cours de physiologie générale et comparée de 1833. La partie publiée, qui correspond seulement à la première année du cours de la Sorbonne, concerne essentiellement l'histologie du système nerveux, c'est-à-dire le développement des différents tissus nerveux. Rappelons pour mémoire que c'est ce fameux cours auquel assista Comte, hein, et qu'il cite dans le cours de philosophie positive. Enfin, la dernière période comprend d'une part un cours fait en 1844 et 1845 sur le système nerveux, dont on a un manuscrit très rédigé, et d'autre part, les chapitres sur Gall dans l'histoire des sciences de l'organisation, publié en 1845. Ces deux derniers travaux sont homogènes entre eux, et à la lecture du cours de 1844, on est d'ailleurs amené à revoir à la baisse, à mon avis, l'importance de l'abbé Maupier dans la rédaction de l'histoire des sciences de l'organisation. Oui, parce que l'histoire des sciences de l'organisation a été rédigée par l'abbé Maupier, et on dit souvent que c'est un mauvais livre, et un livre où l'abbé Maupier a fait rentrer beaucoup plus d'idées théologiques que Blainville n'en admettait. Or, en fait, quand on lit le cours 1844, le cours sur le système nerveux, on trouve des idées extrêmement proches de ce qu'il dit dans l'histoire des sciences de l'organisation. Donc, l'abbé Maupier n'aurait peut-être pas, à mon avis, une importance aussi grande. Rappelons enfin qu'une des sources principales de notre connaissance de Blainville est constituée par le traité de l'anatomie du système nerveux cérébrospinal d'Achille Louis Fauville, qui se présentait comme l'élève de Blainville. On trouve dans cet ouvrage à la fois des documents inédits et une présentation des thèses de la dernière période. Il est d'ailleurs parfois difficile de discerner ce qui est de Fauville et ce qui est de Blainville. On trouve du Fauville dans le cours de 1844 et du Blainville dans le traité complet d'anatomie. Excusez-moi. J'en viens donc à la question qui va guider cette étude. Blainville est-il gallien ? Est-il partisan de Gall ? Bon, c'est une chose bien connue que Blainville, dès 1814, a introduit les thèses de Gall dans son enseignement au muséum, c'est-à-dire dès la première année où il supplée Cuvier dans cette institution. Sur ce point, le témoignage de Fauville est très net. Je crois que c'est la deuxième citation. Ce savant qui, par son génie et sa loyauté, fait tant d'honneur à la France, loin de croire utile à sa gloire de commencer, comme tant d'autres, par des attaques passionnées contre Gall, se plaît à proclamer qu'il s'est inspiré des travaux de ce puissant génie. Intégrer les résultats de Gall dans ses travaux, s'en inspirer, cela ne signifie évidemment pas être partisan de Gall au sens d'une adhésion complète à la théorie. Il ne fait aucun doute, pour le dire vite, que Blainville n'est pas phrénologue, même comme le fut Brousset, c'est-à-dire en insérant de façon massive les thèses physiologiques de Gall dans un système déjà en grande partie formé. Pour comprendre ce que peut signifier dans le cas de Blainville s'inspirer de Gall, il faut d'abord faire une division dans l'œuvre du médecin allemand. La réception de Gall a spontanément opéré la division entre le versant anatomique et le versant psychophysiologique. C'est un lieu commun de l'historiographie du mouvement phrénologique que de rappeler que même les adversaires les plus acharnés de la pluralité des facultés, ce que Flourens appelait le système absurde de la phrénologie, ont reconnu la valeur de l'anatomie de Gall et de sa conception générale du système nerveux. Nous suivrons donc ici cette division. D'abord, Blainville et l'anatomie gallienne, et d'autre part Blainville et la psychophysiologie galienne. Donc, selon Clark et Jacina, deux traits fondamentaux caractérisent, du point de vue de l'anatomie générale du système nerveux, l'originalité et l'importance de la théorie de Gall. Il s'agit tout d'abord de l'introduction de la notion structurelle de ganglion comme élément de base du système nerveux. Pour le dire schématiquement, un ganglion est une masse de substances grises gélatineuses qui engendre des filets nerveux, substances blanches et fibreuses. Il s'agit ensuite, et c'est le second trait relevé par Clark et Jacina, de la conception du système nerveux comme d'un ensemble de sous-systèmes indépendants les uns des autres et possédant tous une structure ganglionnaire. Comme le dit Gall, aucun nerf ne naît d'un autre nerf, ici le mot nerf signifie système nerveux partiel, aucun nerf ne naît d'un autre nerf, mais chacun prend son origine dans une masse propre de substances gélatineuses. Par conséquent, les systèmes nerveux de la poitrine et du bas-ventre ne peuvent être dérivés ni l'un de l'autre, ni immédiatement du cerveau, ni immédiatement de la moelle épinière. Bon, et cela vaut pour en fait tous les systèmes, pas seulement pour les systèmes nerveux de la poitrine et du bas-ventre. Ces deux thèses ont pour conséquence immédiate, et c'est là ce qui explique en grande partie leur importance historique, de détruire la conception traditionnelle du système nerveux. Selon cette conception, héritée de Galien, le cerveau était conçu comme l'origine et le centre du système nerveux, et la moelle épinière et les nerfs comme les prolongations de la masse cérébrale. Bon, c'est les deux thèses de Gall, et surtout la seconde, permettent de faire voler en éclats ce système et ce schéma galénique. Quelle est la position de Blainville concernant ces deux thèses ? En ce qui concerne la question structurelle du ganglion, on peut dire que Blainville est globalement d'accord avec Gall. En 1821, il définit le système nerveux, je cite, comme un plus ou moins grand nombre d'amas ou de centres de la même substance nerveuse, plus ou moins pulpeux, pour lesquels on peut généraliser le nom de ganglion, de chacun desquels partent deux ordres de filaments de longueur, grosseur et structure différentes. Et en 1844, c'est-à-dire à la fin de sa carrière, il meurt en 1850, en 1844, il affirme « Gall regarde la substance grise comme une mère nerveuse de la substance blanche ». La thèse de Gall offre le plus de probabilités. Nous dirons une pulpe nerveuse grise d'où naissent des fibres nerveuses qui vont, en se fasciculant, former le système nerveux. Certes, Blainville complexifiera la théorie gallienne en essayant d'établir des différences entre les ganglions et les filets suivant leur répartition fonctionnelle. Il analysera aussi plus en détail les tissus ganglionnaires et némertaires, c'est-à-dire les tissus des fibres, les tissus ganglionnaires et némertaires, à partir de sa propre théorie tissulaire dérivée de Bichat. Mais ces distinctions ne vont pas contre l'esprit même de la théorie gallienne, qui admettait elle aussi, dans cette structure ganglionnaire fondamentale, des variations d'origine, de disposition, de proportion des substances, de couleur, etc. En ce qui concerne, en revanche, la disposition générale du système nerveux, la position de Blainville est certainement plus complexe. Il est d'accord pour rejeter le schéma galénique, mais il a toujours eu une hostilité marquée contre l'idée que le système nerveux pourrait être un réseau. Je cite un passage de son article de 1821. Les anciens anatomistes, en considérant le système nerveux dans son ensemble comme formant un grand arbre dont la racine serait le cerveau et d'où partiraient toutes les branches, s'en faisaient une idée tout à fait erronée. Il nous semble qu'il en est de même de l'opinion de ceux qui pensent qu'il forme une sorte de réseau. Quoique plus rapproché de la vérité, cette opinion pourrait faire croire qu'il n'y a pas cette régularité ou symétrie admirable qu'on y remarque. Le réseau est une idée qui découle directement des conceptions de Gall, selon lesquelles le système nerveux est une somme de sous-systèmes indépendants reliés les uns aux autres. Et elle est effectivement explicitement attribuée par Blainville au Gall de la maturité. Cette hostilité à la figure du réseau se comprend si l'on se tourne vers la propre théorie de Blainville. Biologiste de l'individuation animale, Blainville conçoit prioritairement le système nerveux comme un système unificateur et comme opérateur d'individualisation plus évolué que l'opérateur fondamental d'individualisation, c'est-à-dire l'enveloppe animale, la peau. Il y a en effet chez Blainville une très grande attention aux questions de forme et d'enveloppe animale en tant que cette forme, généralement symétrique, renvoie à une cohérence fonctionnelle qui définit l'animal en tant que tel. D'où une conception de la disposition du système nerveux qui va contre l'idée de réseau et qui distingue deux parties. une partie ganglionnaire et une partie centrale. Alors, j'ai essayé de restituer cette conception de la disposition du système nerveux par le petit schéma que vous avez en début de, merci, que vous avez en début de feuille. Alors, les petits points ronds, ce sont des ganglions. Hein. Alors, deux parties. Donc. Première partie, la partie ganglionnaire. La partie ganglionnaire est celle qui assume, en quelque sorte, la fragmentation de l'organisme en différentes fonctions. Pour s'en tenir à la vie animale et ignorer la partie viscérale, on compte plusieurs types de ganglions affectés, d'une part à la locomotion et au toucher, ce sont les ganglions spinaux, c'est ceux qui sont en bas du schéma, d'autre part les sens spéciaux, les ganglions affectés aux sens spéciaux, essentiellement les ganglions de la partie céphalique de la moelle, et enfin les ganglions sans appareil extérieur, c'est ainsi que Blainville les nomme et contreprendra cette expression. Alors, les ganglions donc sans appareil extérieur qui correspondent globalement à l'encéphale, les masses olfactives, les hémisphères, les tubercules quadrijumeaux et le cervelet. Mais à côté de cette partie ganglionnaire, composée d'éléments, pourrait-on dire, épars, Blainville postule l'existence d'une partie centrale qui correspond à l'axe cérébro-spinal, lequel comprend en gros la moelle épinière et le tronc cérébral. Alors, c'est ce que j'ai symbolisé par donc l'espèce de tige qui est divisée en deux cônes, assez bizarre. Cette partie centrale, dans l'ordre génétique, c'est-à-dire en remontant l'échelle animale, puisqu'on est dans l'anatomie comparée, vient après la partie ganglionnaire. C'est donc une formation plus élaborée qui apparaît à un stade avancé de la vie animale et qui a une fonction d'harmonisation ou d'unification de la partie ganglionnaire. C'est sur cet axe qu'une grande partie de la réflexion de Blainville va porter. C'est ainsi qu'en 1844, Blainville va avancer une théorie de l'axe central inspirée de l'idée développée par Haucken, selon laquelle tout animal est composé de deux cônes juxtaposés base à base. Sur ce point, nous pouvons suivre Fauville, je cite, « Suivant M. de Blainville, la partie fondamentale du système nerveux se compose de deux cônes juxtaposés base à base. Leur réunion forme l'axe du système nerveux cérébro-spinal. Cet axe est la moelle épinière, en admettant qu'elle se prolonge jusque dans les lobes olfactifs, et alors l'un des cônes qui la constitue occupe le rachis proprement dit, l'autre les parties basilaires du crâne, se prolongeant jusqu'à la lame criblée de l'ethmoïde. C'est dans les renflements voisins du trou occipital que ces deux cônes se réunissent. Autour de cet axe central naissent dans sa partie rachidienne les nerfs rachidiens, etc. Après, il décrit effectivement la naissance de tous les divers nerfs à partir de cette partie centrale. La dernière théorie de Blainville diffère beaucoup plus nettement de Gall que la présentation qu'il en avait faite en 1821. Mais elle ne fait que forcer des traits qui étaient déjà présents en 1821. Cette conception refuse finalement de concevoir l'axe cérébro-spinal de la façon dont Gall le concevait, c'est-à-dire comme une série de ganglions unifiés. Cet axe, pour Blainville, bien qu'il comporte des commissures, de la substance grise, etc., bien qu'il soit, est une sorte d'entité structurelle. Cet axe est une sorte d'entité structurelle autour de laquelle se construit le système nerveux qui, à partir de là, est tout sauf un réseau. Une des conséquences de la valorisation de la partie centrale, c'est une certaine marginalisation du cortex et de l'encéphale. Dit dans le vocabulaire de 1844, le cône postérieur, celui qui donne naissance au cervelet, aux hémisphères, est certes la partie la plus élevée, mais aussi celle qui est la moins importante, celle qui se présente comme un perfectionnement accessoire de la partie postérieure centrale. C'est-à-dire que du point de vue biologique et du point de vue de la chaîne générale des animaux, le cortex est un élément un peu marginal par rapport à la partie centrale. Si donc l'on essaie de caractériser la position de Blainville sur l'anatomie générale du système nerveux, on peut dire que la perspective comparatiste qui lui est propre, ainsi que l'intérêt qu'il accorde aux questions de physionomie animale comme indice d'un type particulier d'unification, le conduit à survaloriser la notion de partie centrale du système nerveux. D'où, au sein d'une anatomie assez massivement inspirée de Gall, deux thèses divergentes, l'une refusant de concevoir le système nerveux comme un réseau, et l'autre consistant à faire de l'axe cérébro-spinal la partie fondamentale de ce système. J'aborde maintenant ma seconde partie, la partie concernant la psychophysiologie et la localisation. Alors, j'avertis tout de suite que là, je ne suis pas du tout certain de ce que je dis. C'est plutôt une reconstruction. Hein. C'est à partir de manuscrits qui sont écrits, qu'il faut lire avec une loupe, certains, c'est absolument incroyable. Je n'ai pas encore tout lu. C'est une reconstruction. Et en plus, pour ce qui concerne proprement le cerveau, il y a assez peu de documents. Et l'essentiel des textes de Blainville sont surtout des descriptions anatomiques. Donc, c'est assez difficile de voir où exactement il veut en venir. Bon, on va essayer quand même de reconstruire ça. Les points donc, que nous allons évoquer maintenant concernent la partie, je cite, 1844, le cours de 1844, la moins importante mais la plus élevée du système nerveux. Il s'agit globalement de la connaissance du cerveau, ou pour reprendre les termes de Blainville, la détermination des fonctions des ganglions sans appareil extérieur, c'est-à-dire des parties de l'encéphale, et on se consacrera essentiellement à la question des hémisphères. Les positions de Blainville sur ce sujet sont gouvernées par deux principes, là, qui sont clairement dits. Hein, là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de la reconstruction. Les positions de Blainville, donc, sur ce sujet, sont gouvernées par deux principes, dont l'association, si on raisonne dans une perspective galienne, est assez contradictoire. Enfin, le premier principe est exposé très tôt, enfin assez tôt du moins, plutôt, en 1828, dans un rapport sur des recherches entreprises par Fauville sur l'anatomie du cerveau. Recherche assez connue où il identifiait des zones du cortex qui pouvaient être motrices. Alors, Gall fait un rapport et il parle des différentes façons d'étudier le cerveau. Et voici ce qu'il dit. Enfin, je dois parler, en dernier lieu, d'un cinquième moyen ou des moyens métaphysiques, parce que c'est en effet celui qui a été le dernier employé, puisque c'est évidemment lui qui a conduit messieurs Gall et Spurzheim à leur manière d'envisager la disposition anatomique du système nerveux cérébrospinal. En effet, on conçoit très bien que l'on puisse, a priori, analyser toutes les fonctions de l'intelligence, de la sensibilité, de la locomotilité, les systématiser et chercher ensuite dans l'organisation une disposition concordante. C'est cette direction nouvelle qui a tiré les anatomistes de l'ornière profonde selon laquelle ils étaient avant les travaux de messieurs Gall et Spurzheim. Et quand même ils n'auraient fait que cela, bien plus quand même tous les points de leur anatomie du cerveau seraient successivement contestés et complètement réfutés, il leur resterait la gloire d'avoir trouvé un nouveau moteur, et par conséquent, à eux devra toujours remonter, comme à sa source, tout ce que l'on fera désormais de bon à ce sujet. Ce principe est réitéré en 1833 et en 1844. Pour étudier le cerveau et ses fonctions, il faut d'abord une psychologie. Hein. Et la physiologie de Blainville, pour le cerveau tout au moins, c'est une psychologie, il le dit assez clairement. Même si à côté, il y a une étude tissulaire. Mais en fait, l'étude tissulaire, c'est une étude anatomique hein, et structurelle. Cette position, en fait, elle est parfaitement galienne. Hein. N'est-ce pas Gall, en effet, qui disait, je cite, « La connaissance des fonctions a toujours précédé celle des parties. C'est aussi sans le secours de l'anatomie du cerveau que j'ai fait toutes mes découvertes physiologiques. Et ces découvertes auraient pu subsister pendant des siècles sans qu'on en saisisse la concordance avec l'organisation. » Sur ce point de vue-là, Gall aussi est très clair. Le premier principe posé par Blainville résulte donc d'une lecture fidèle de Gall. Notons au passage que nous avons là le principe même de la méthode subjective concernant l'étude des fonctions cérébrales, principe que Kant, en 1828, n'a pas encore dégagé. Dans la 45e leçon, il est plutôt dans l'optique d'essayer de faire concorder exactement anatomie et physiologie. Il est en retrait par rapport même à la conception blainvillienne de l'étude du cerveau. Le second principe consiste à mettre en cause la notion même de fonction cérébrale en contestant l'idée que le cerveau puisse être compris comme l'organe de l'intelligence. Comme il est impossible de trouver une relation de cause à effet entre l'organe cérébral et les fonctions intellectuelles, le cerveau sera compris seulement comme le substratum ou le siège de l'intelligence. En aucun cas, le cerveau ne peut être considéré comme un instrument ou un organe produisant. Les phénomènes de l'intelligence, je cite Blainville, les phénomènes de l'intelligence sont d'une toute autre nature que les faits physiques et, s'ils peuvent être analysés complètement dans leur marche, leur succession, dans leur degré d'intensité et tout au plus dans leur rapport avec le substratum corporel qui en est le siège, leur production et leur mode de liaison avec ce substratum corporel sont des problèmes inabordables pour l'esprit humain. Bon, on attribue cette analyse au christianisme de Blainville. S'agit-il d'un spiritualisme ? Gouillet n'hésite pas à employer le terme, et il est effectivement légitime s'il consiste seulement à reconnaître une différence de nature entre l'âme et le corps. Mais il est sûr, en revanche, que ce spiritualisme n'a pas les conséquences qu'on attend habituellement d'une position spiritualiste. Et notamment, il n'interdit absolument pas la localisation. Ce que relativise, à mon avis, cette analyse, c'est seulement la radicalité de l'explication biologique. Mais elle n'implique ni le rejet de la localisation, ni l'obligation de considérer le substratum de l'intelligence comme une entité une, ce qu'impliquait au contraire le spiritualisme peut-être opportuniste de Flourens. En effet, en ce qui concerne la possibilité théorique d'une localisation compatible avec une approche spiritualiste, le grand modèle de Blainville est celui de la localisation cellulaire pratiquée dans le cadre scolastique, notamment par Albert Legrand. Il s'agissait alors, je le rappelle, de localiser dans les différents ventricules du cerveau les sièges, le siège de facultés comme l'âme sensitive, imaginative, cogitative, etc. C'est-à-dire que les facultés aristotéliciennes étaient placées dans les différents ventricules du cerveau. D'où une nomenclature spéciale dérivée de la scolastique pour les fonctions cérébrales, nomenclature qui double le vocabulaire biologique traditionnel. C'est ce que Blainville expose dans l'histoire des sciences de l'organisation, enfin Blainville et l'abbé Maupier. Alors, le cerveau sera compris seulement comme un substratum ou un siège. On parlera plus de fonction, mais on parlera plutôt de faculté ou de puissance, et les organes deviendront des parties du substratum, etc. Donc, on fait basculer le vocabulaire biologique dans un vocabulaire théologique. Bon, une fois ces deux principes exposés, et ces deux principes sont relativement sûrs, on peut essayer de reconstruire la théorie de Blainville sur les fonctions ou facultés cérébrales et sur ce qu'il appelle les phénomènes de sensibilité intérieure. Le trait le plus général de cette théorie est un certain disparate et une certaine complexité, si l'on s'en tient à la stricte orthodoxie galienne ou même à la stricte orthodoxie sensorimotrice. Cette complexité vient en partie du fait que Blainville insère des catégories galiennes dans un schéma biologique donnant le premier rôle aux grandes fonctions animales. Cette théorie se déploie selon trois axes qui sont quasiment comme autant de stratégies différentes. Premier axe. Le premier axe est en quelque sorte la réponse à la question à laquelle invite le premier des deux principes que nous venons de citer. Quelle doit être la psychologie directrice ? Celle-ci est assez bien résumée dans un passage du cours de 1844, et de façon assez lapidaire. Le système nerveux, si compliqué qu'il paraisse, est un tout où arrivent les filets sensoriaux et d'où partent les filets locomoteurs. Ainsi, nous arrivons à une véritable psychologie et par suite à une véritable philosophie. Cette psychologie très sommaire et relativement banale met tout d'abord en avant les deux catégories fondamentales de la vie animale, la sensation et la volition, qui sont aussi, à travers les sens et la locomotion, les deux catégories dont la partie centrale assure la conduction et la jonction. De ce point de vue, les formations plus élevées de l'encéphale ne font que continuer la transaction entre la sensation et la volonté, et c'est en effet là, comme le dit Blainville, qu'il y a, je cite, « le plus de travail entre la sensation et la volition ». Ça travaille dans les hémisphères. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, c'est assez étrange, ces notes de cours. Mais cette analyse, et c'est ça qui est assez étonnant, ne débouche pas pour autant sur une localisation de type sensorimotrice. Il semble au contraire que ce travail entre la sensation et la volonté va être opéré par des facultés phrénologiques. Et j'en arrive au deuxième axe. La théorie blainvillienne intègre en effet, dans sa théorie de la sensibilité intérieure, des catégories galiennes. Je ne dis pas toutes, mais une bonne partie. Bon, elles sont exposées dans le cours de 1814. Dans le cours de 1829 aussi, elles sont intégrées dans l'étude de la sensibilité intérieure. Alors, dans le cours de 1829, il s'agit d'une importation assez massive et dont les attendus ne sont pas très clairs. Tout au plus, peut-on remarquer, en ce qui concerne les facultés intellectuelles, que s'il y a des facultés galiennes, elles sont intégrées dans des catégories générales répondant d'assez près à la psychologie évoquée plus haut, un traitement de la sensation et un débouché volontaire. Dans le cours de 1844, l'intégration est peut-être plus convaincante, car elle s'opère dans un cadre fournissant une logique biologique à la répartition gallienne. Je cite, « Suivant la théorie de Gall, le cerveau contient dans le lobe médian les organes de la nourriture, dans le lobe postérieur, les penchants pour la reproduction, et dans le lobe antérieur, les organes de la réflexion. L'animal devant, avant tout autre acte, vivre, se reproduire et y réfléchir pour parvenir. » En marge, l'animal devant, avant tout, vivre, se reproduire et y pourvoir. En marge, ça veut dire que c'est souligné. C'est une idée, ça fait titre en quelque sorte. S'il n'est pas parfaitement évident que Blainville adhère entièrement à la théorie de Gall, il n'en reste pas moins que cette présentation concise est assez originale et permet de comprendre comment cette tripartition, qui reprend globalement la tripartition gallienne, effectivement, comment cette tripartition est compatible avec une théorie des besoins biologiques fondamentaux. Enfin, troisième axe, il y a un second type de localisation qui va se surajouter à la localisation d'inspiration phrénologique. Ce second type est dû à Fauville, qui identifie le centre du système nerveux. C'est le petit point entre les deux cônes, hein, si vous voulez, dans mon schéma. Donc, il identifie le centre du système nerveux dans une formation, la commissure antérieure, qu'il place justement à l'articulation des deux cônes formant l'axe cérébro-spinal. Fauville suggère que ce centre serait comme le répondant physique de l'unité psychologique du moi. Blainville reprend cette localisation sans pour autant, à notre connaissance, évoquer l'idée de l'unité du moi. Mais Blainville est certainement plus intéressé par les implications biologiques de cette thèse que par ses conséquences psychologiques. L'idée d'une formation spécifique qui permettrait non seulement de rassembler toutes les parties du cerveau, mais aussi les deux parties de l'axe cérébro-spinal semble en effet tout à fait cohérente avec l'intérêt que Blainville a toujours porté au thème de la centralité et de l'unité animale. Remarquons enfin qu'une telle thèse déplace encore une fois le centre de gravité du système nerveux. Du cortex, il passerait aux formations basilaires et à une partie donc de la partie centrale de l'axe cérébro-spinal. Alors, maintenant je vais essayer de conclure en deux points, hein, rapidement. Avant de revenir sur la question de l'action propre du cerveau, on peut donc faire le point sur l'adhésion globale de Blainville à Gall. Sur beaucoup de points, il y a une adhésion massive au test de Gall, sur la question des ganglions, sur la méthode psychologique ou métaphysique, sur le refus du schéma galénique, sur l'acceptation de certaines facultés phrénologiques, etc. Mais il y a aussi beaucoup de réticences. Peuvent-elles s'expliquer par le spiritualisme de Blainville ? La postulation de l'hétérogénéité de l'intelligence au corporel peut-elle induire une lecture particulière de Gall ? Il nous semble effectivement qu'elle conduit à refuser toutes les thèses de Gall qui vont dans le sens d'un éclatement du système nerveux. L'attachement à l'idée d'une partie centrale structurellement cohérente, le refus corrélatif de l'idée de réseau, la déréalisation partielle de la localisation cérébrale et la reconnaissance éventuelle d'une formation centrale unifiant les deux pôles fondamentaux de la partie centrale sont autant de traits qui donnent la priorité à l'unité sur la pluralité. Il y a chez Blainville, à partir de la partie centrale, un schéma directeur d'emblée unifiant. Par là, nous avons, me semble-t-il, une conception globalement très différente de celle que Kant tire de la phrénologie, où le réseau, la pluralité, la diffraction est première et où la problématique de l'unification cérébrale, chez Kant, ne se comprend que sur le fond de la pluralité organique de l'ensemble du système nerveux. Là, on pourrait presque reprendre l'analyse de Kant et dire qu'il y a l'idée d'unité de l'âme à la base de l'anatomie blainvillienne, mais qui se marque pas dans l'identification d'un point qui correspondrait à l'âme. Deuxième point de la conclusion, donc, maintenant, il semble assez évident dans ce contexte que l'idée que Blainville serait proche d'une conception de l'action propre du cerveau n'a finalement pas grand sens, hein, et même peut-être réfutée. D'une part, il a admis une partie de la théorie des facultés galliennes, et d'autre part, il a accepté un principe de localisation qui admet au moins des parties dans le cerveau, et plus particulièrement dans les hémisphères. Et d'ailleurs, dans le cours de 1844, il semble admettre, accepter, exposer une différenciation entre les trois lobes postérieur, médian et antérieur du cerveau. Donc, pour conclure définitivement, c'est assez difficile de se faire une idée de la conception générale de Blainville. Il me semble fondamentalement partagé entre plusieurs approches. Hein. Une approche biologique qui le dirige vers une logique sensorimotrice et centralisatrice. Une adhésion à certains pans de la physiologie de Gall, hein, qui le mène au contraire vers une logique non centralisatrice. Et enfin, il est aussi partagé par, une approche, pas spiritualiste, mais enfin, disons, chrétienne du cerveau. Hein. Bon, toutes ces approches font que son système échappe assez évidemment au schéma tranché, disons, tout fait qu'on pourrait élaborer. Et il me semble qu'il échappe assez bien à l'opposition Flourens-Gall aussi. Bon, je vous remercie.
Bien. Merci Laurent de cet exposé qui a su démêler, débrouiller des textes qui sont effectivement, pour qui les connaît un petit peu, extrêmement obscurs. Donc je t'en remercie.